Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Métropolez-vous, dont nous avons repris le cycle des émissions après 2 mois d'arrêt, confinement oblige. Nous sommes de retour depuis la semaine dernière où nous avons inauguré une série de numéros consacrés à l'histoire de Toulouse. Jusqu'alors, nous nous étions intéressés aux communes petites et moyennes de la métropole. Il fallait, à un moment donné, nous plonger dans le passé de la plus grande de toutes. Pour le numéro initial de cette série, nous avons parcouru la période qui va des origines les plus anciennes, de la préhistoire avec les premières traces de présence humaine sur le territoire de Toulouse, jusqu'à la chute du royaume wisigoth en 507, en passant bien sûr par les périodes gauloises et gallo-romaines. C'est donc au début du 6e siècle que nous nous sommes arrêtés, et c'est de là que nous allons reprendre aujourd'hui pour aborder les 1000 ans de la période du Moyen-Âge dans la ville rose, un millénaire pendant lequel la cité va beaucoup se développer, s'organiser, et où seront construits bon nombre d'édifices que nous pouvons encore contempler et visiter de nos jours. Voilà donc le menu de ce numéro consacré à l'histoire de Toulouse, de la période franque à la Renaissance. Et pour cette exploration du Toulouse médiéval, après Jean-Marie Payet la semaine passée, nous avons le plaisir de recevoir de nouveau une universitaire dans cette émission, historienne et spécialiste de la période que nous abordons aujourd'hui. Elle s'appelle Agathe Roby et je la remercie d'avoir accepté de participer à ce numéro. Bonjour et bienvenue à vous aussi Agathe Roby. Comme Jean-Marie Payet, vous avez collaboré à l'ouvrage collectif Histoire de Toulouse et de la métropole, paru aux éditions Priva tout récemment. Est-ce que vous êtes une spécialiste de tout le Moyen-Âge? Ou est-ce que vous avez des siècles, une période de prédilection, comme c'est souvent le cas pour les historiens?
Alors bonjour, merci de votre invitation. Alors non, bien sûr, je ne suis pas spécialiste de l'ensemble du Moyen-Âge, puisque c'est une période très vaste, qui dure 1000 ans. Moi, je suis spécialiste de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire d'une période allant du XIIIe au XVIe siècle, et je suis plus spécifiquement spécialisée sur l'histoire des femmes, et même plus spécifiquement de la prostitution. Donc personnellement, je me suis chargée des 2 derniers chapitres donc de cette période médiévale et c'est mon collègue Gérard Pradalier qui s'est chargé de la première moitié du Moyen-Âge allant du 5e au 13e siècle.
Eh bien, un grand merci pour toutes ces informations qui nous permettent de mieux vous connaître. Nous allons profiter un peu plus tard dans cette émission de toutes vos connaissances sur la période médiévale à Toulouse parce que pour l'instant, c'est le moment du flash d'information métropolitaine de Corinne Saint-Félix. Métropolez-vous, l'actu. On ouvre ce flash avec une information qui concerne le secteur du bâtiment. Une charte de bonne pratique a été signée pour la prise en charge des surcoûts dans la construction.
Toulouse Métropole et le Conseil départemental de la Haute-Garonne s'organisent aux côtés de la Fédération du BTP 31 dans le cadre de bonnes pratiques solidaires pour la gestion de la crise du Covid-19 et cela afin d'atténuer ses conséquences humaines, économiques et sociales dans ce secteur. Objectif, favoriser la reprise des chantiers dans les meilleures conditions et sauvegarder les 34 000 emplois du BTP sur le territoire. Pour cela, une charte des bonnes pratiques interprofessionnelles en vue de la sauvegarde du secteur de la construction et pour la continuité des chantiers a été signée ce jeudi 28 mai. Une charte qui sera appliquée sur les travaux, sur la rocade sud de la ville rose par exemple, qui ont repris eux lundi dernier. Après 10 semaines d'interruption due au confinement, les travaux d'élargissement à 2x3 voies du périphérique sud de Toulouse entre Rangueil et l'Espinet vont donc pouvoir reprendre. Ce chantier est cofinancé par l'État, le Conseil régional d'Occitanie, le département de Haute-Garonne et Toulouse Métropole. Dans un premier temps, seule 20 d'ouvriers reprendront le travail. Ils seront pourvus d'équipements de protection individuelle adaptés. Lancé en janvier 2019, ce chantier devait être livré début 2022.
Et pendant ce temps, si la crise sanitaire semble s'éloigner petit à petit, 2 cas de Covid-19 en établissement scolaire sont tout de même à signaler dans la métropole toulousaine.
Oui, NetSem assurant son service à l'école maternelle Ernest Renan a été testée positive. Les personnes identifiées comme cas contact confirmés sont prises en charge par la plateforme de la CPAM en lien avec l'ARS. Parmi eux figurent des personnels municipaux, des enseignants et des enfants. Le protocole prévoit des tests pour ces personnes et une mise à l'isolement d'isolement. Les locaux ont été désinfectés lundi et l'accueil des élèves réorganisé pour une ouverture mardi dernier. Autre cas, cette fois au collège François Mitterrand de Fenouillet, le conseil départemental a décidé la fermeture du collège jusqu'au lundi 1er juin inclus.
Et puis pour finir, une nouvelle qui va intéresser les passionnés de sport. Si le Toulouse Football Club descend en Ligue 2, il s'apprête aussi à changer de propriétaire.
Et oui, une nouvelle page s'ouvre pour le TFC avec l'annonce ce jeudi 21 mai de l'entrée en négociation exclusive pour la cession de 85% de son capital au groupe Redbird Capital Partners. Les négociations pourraient être finalisées avant le 15 juillet, préparant le club toulousain à connaître une nouvelle phase à la fois donc sportive et financière. Le club professionnel de foot se prépare aussi à changer de division, passant en Ligue 2 après 17 ans au plus haut niveau. Si ces négociations aboutissent, Olivier Sadran garderait une minorité du capital, car écrit-il, je suis Toulousain de naissance et je me sens responsable et impliqué dans les déboires actuels du TFC. Basé à New York, en pleine Madison Avenue, Redbird Capital revendique plus de 7 milliards de dollars de participation dans diverses compagnie, principalement en Amérique du Nord. Et dans le monde sportif, le fonds a déjà investi dans plusieurs équipes américaines. Les Yankees de New York, c'est du baseball. Les Cowboys de Dallas pour du football américain ou encore dans la Major League Soccer, principale ligue de football aux USA et au Canada.
Voilà, c'était le flash d'information de Corinne Saint-Félix, l'actualité métropolitaine. Retour maintenant, non pas vers le futur, mais vers le passé, ce passé qui permet aussi de comprendre le présent. Voici l'histoire de Toulouse au Moyen-Âge, de la période franque à la Renaissance.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec notre invitée du jour, Agathe Roby, universitaire, professeure d'histoire médiévale à l'université Toulouse de Jean Jaurès, qui a collaboré à la rédaction du livre collectif Histoire de Toulouse et de la Métropole paru aux éditions Privas. Nous allons donc repartir d'où nous nous étions arrêtés lors du premier numéro dédié à l'histoire de Toulouse, la chute du royaume wisigoth après la victoire des Francs de Clovis à la bataille de Vouillé, près de Poitiers, qui a précédé la prise de Toulouse en 507. Et alors, ensuite, que se passe-t-il durant cette période du très haut Moyen-Âge, alors que la ville passe sous la tutelle des Francs, Agathe Roby?
Alors, on est dans une période un peu obscure hein, de l'histoire de Toulouse, puisque c'est une période reculée. On a très peu de documents qui nous permettent d'en savoir plus. Donc, il y a cette défaite des Wisigoths vers Poitiers en 507, et Toulouse est conquise par Clovis et les Francs. Il va y avoir une occupation franque durant quelques siècles, et on n'en sait pas grand-chose, si ce n'est que quelques découvertes archéologiques récentes nous ont permis de mettre au jour quelques bâtiments, mais on n'en sait pas plus. On a vraiment une période un peu obscure jusqu'à l'arrivée du comte de Toulouse au XIIe siècle.
Qui est ce comte de Toulouse d'ailleurs, le premier?
Alors la Sûreté comtale, elle est créée en 1120 par Alphonse Jourdain. Donc cette Sûreté comtale, elle ne comprend pas tout Toulouse. La Sûreté comtale, elle va se concentrer autour du château Narbonnais. Le château Narbonnais, c'est l'ancien parlement de Toulouse en fait, hein, donc au sud de la ville. Et elle va comprendre le quartier des Carmes, Tounis, la place du Salin et un peu tout ce qu'il y a autour. Le comte, il va être juge sur son territoire, il va pouvoir octroyer des privilèges. Et c'est lui qui juge par contre pour toute la ville les crimes de sang et la haute justice, et tout ce qui touche les homicides, l'adultère, etc. En plus de ça, on va avoir d'autres juridictions qui vont s'émailler un peu partout dans la ville, des seigneuries, des tours seigneuriales qui vont se dresser un peu partout. Hein. Une des plus fameuses, c'est la tour Mauran, qui a été amputée au XIIe siècle, puisque la famille a été accusée d'hérésie. Hein. Pierre Mauran a dû partir en pèlerinage à Jérusalem. Et puis on a aussi des enclaves ecclésiastiques. On en compte trois à cette époque, l'enclave de Saint-Sernin, celle de Saint-Étienne et celle de la Dorade. Et donc chaque enclave exerce sa justice civile propre.
Alors cette époque du 11e, début du 12e, c'est l'époque aussi où des églises sont construites, et notamment à Saint-Sernin. Saint-Sernin est consacré en 1096 par le pape Urbain II.
Alors pour la structure de la ville, hein, il faut s'imaginer qu'à cette époque, à partir du 12e siècle, Toulouse est une ville double, c'est-à-dire qu'il y a deux entités vraiment différentes, la cité et le bourg. Donc le bâtiment le plus important, le plus emblématique, c'est bien sûr Saint-Sernin, qui commence à être construit en 1090. Le pape Urbain II va venir la consacrer en basilique très rapidement, en en 1096. Mais à cette époque, il faut s'imaginer qu'il y a que le chevet et le transept qui sont construits. Et les travaux vont durer très 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 longtemps. Il va y avoir un chantier intensif jusque dans les années 1120. Puis un ralentissement du chantier. L'église va être construite en fait pendant encore le 12e et le 13e siècle. Les autres travaux un peu importants qu'il peut y avoir dans la cité, c'est la continuation de la construction de la cathédrale Saint-Étienne, qui va un peu pâtir aussi de la construction de Saint-Sernin, puisque Saint-Sernin va récupérer un peu tous les bénéfices ecclésiastiques et récupérer tous les revenus pour la construction de la basilique, et donc la construction de Saint-Étienne va se faire en plusieurs temps. Troisième construction importante, c'est le monastère de la Dorade, qui va un peu se développer.
Alors, le XIIe siècle, c'est aussi l'époque où il y a un événement très important à Toulouse, c'est la mise en place du capitoulat. Les capitouls, alors il faut que vous nous expliquiez, parce que tout le monde a entendu ce nom, capitoul, mais tout le monde ne sait pas forcément qui ils étaient, quel était leur pouvoir, à qui devaient-ils rendre des comptes, comment ils étaient organisés, et peut-être aussi comment ils étaient choisis ou élus.
Alors, le capitoulat, il apparaît au milieu du XIIe siècle, en 1152, et c'est une émanation à la base de la cour du comte. C'était en fait le commun conseil de la cité et du bourg. Donc, il est composé à l'époque de 6 capitouliers, dont vient le nom capitoul, appelé aussi capitulaire, et de 4 juges. Et donc, c'est une émanation de la cour du comte, et ce sont des membres de l'aristocratie urbaine. Le nombre de capitouls, il va évoluer, alors il va augmenter, baisser durant toute la période médiévale, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Il va passer en 1176 à 12 capitouls, 6 pour le bourg et 6 pour la cité. Pourquoi ? Alors il faut savoir qu'à Toulouse, la ville est double, mais la majorité de la population se concentre dans la cité. Mais on décide de mettre autant de capitouls pour le bourg que pour la cité, pour éviter les tensions entre ces deux zones de la ville.
Qu'est-ce qu'ils vont apporter les capitouls rapidement à la ville ? Est-ce que c'est à cette époque, par exemple, que les moulins de Garonne se mettent en place ? C'est à cette époque que la Garonne va être peut-être plus exploitée qu'elle ne l'était auparavant ?
Alors oui, la Garonne va beaucoup, les constructions sur la Garonne en tout cas vont beaucoup se développer à l'époque. Il faut s'imaginer une Garonne très embouteillée par les bateaux de passage, le commerce, mais aussi par des moulins flottants. À Toulouse, on avait une soixantaine de moulins flottants sur la Garonne, et donc on doit faire des constructions pour essayer de pallier à ça. Donc on va construire notamment des ponts. C'est à cette époque-là que le pont neuf, et le pont neuf de la Dorade, attention, pas le pont neuf actuel, est construit, dont il reste une arche encore.
Oui, on la voit, sur le côté de l'Hôtel Dieu.
Alors attention, cette arche par contre date du 15e siècle, ce n'est pas,
c'est pas
celle d'origine. Et on a un deuxième pont, le pont du Bazacle, qui va être là, lui, pour répondre aux besoins du bourg, d'accord, puisque le Bazacle est un peu à la jonction entre le bourg et la cité. Et on va aussi entreprendre la construction de moulins terriers, c'est-à-dire de moulins pas flottants, qu'on va installer sur la rive droite de la Garonne, autour de trois pôles, le Château Narbonnais, donc le Parlement de Toulouse, Tounis et la Dorade.
Les capitouls, quelles sont leurs relations avec les comtes de Toulouse ? Comment ça se passe ?
Alors c'est fluctuant. Les relations au départ, elles sont très apaisées entre les capitouls et les comtes de Toulouse, surtout que le comte, donc Alphonse Jourdain, puis Raymond V, est très absent de la ville. Il va aller ailleurs, il a d'autres territoires, et donc les capitouls sont assez autonomes. Les tensions, elles vont commencer avec Raymond V, quand Raymond V va répudier sa femme, Constance, qui était la sœur du roi de France, et donc on est dans un contexte de tension avec l'Aquitaine et avec la Catalogne et l'Aragon. Et donc, les capitouls et le comte Raymond V vont s'affronter. Ils vont notamment, les capitouls, désapprouver la répudiation de Constance, puisque on perd avec ça un allié important, le roi de France. Et pour se défendre, Raymond V va accuser les capitouls d'hérésie. C'est à ce moment-là que Pierre Morand, qui a été capitoul, va justement être accusé d'hérésie et va devoir partir en pèlerinage à Jérusalem. Donc là, on a une affaire à cette époque-là politique et religieuse. On est à la fin du XIIe siècle. Raymond V va commencer à s'impliquer de plus en plus dans la politique de la ville, et là on va avoir un recul de l'autonomie des capitouls. Aux alentours de 1180, en 1188, on a une armée commandée par Richard Cœur de Lion, donc les Plantagenêts, qui arrivent d'Aquitaine, qui s'approche de Toulouse. À cette époque-là, donc c'est très tendu entre les capitouls et le comte, et on est dans une ambiance de guerre civile à Toulouse. Le comte va être dans l'obligation de capituler, il va donner quasiment la totalité du pouvoir, notamment le droit d'exercer la justice, de lever les impôts au capitoul. Et là, on va avoir un âge d'or du capitoulat dans les années de 1189 jusqu'en 1229. C'est à ce moment-là que les capitouls vont se doter de véritables attributs de pouvoir. C'est à ce moment-là qu'on va entreprendre la création de la maison commune. Alors, ce n'est pas le Capitole, mais c'est un peu l'équivalent du Capitole à l'époque. On va écrire des cartulaires qu'on trouve dans les archives municipales de Toulouse, où on va enregistrer les privilèges des capitouls et de la ville qu'ils ont obtenus du comte et de la royauté. C'est là où il y a les premiers sceaux des capitouls en 1205 hein, qui vont être créés.
Alors, autre événement important de cette période, parce qu'il y en a beaucoup à cette période, il se passe beaucoup de choses, mais il y a la croisade des Albigeois. Alors, elle commence à quelle époque ?
Alors, la croisade des Albigeois, je vais essayer d'être assez synthétique, c'est un événement qui se déroule donc au début du XIIIe siècle, entre 1209 et 1229. C'est un événement très important de l'histoire de Toulouse, puisque, bon, le prétexte d'une croisade est religieux, mais en fait, la raison d'être de cette croisade, elle est profondément politique. Elle est due à ces tensions hein, entre le comte et les capitouls. Alors, qu'est-ce qui se passe, il faut revenir un peu en arrière hein, pour expliquer. Donc au XIe, XIIe siècle, Toulouse est une ville exemplaire, très orthodoxe. C'est la capitale de l'art roman. À cette époque, je vous l'ai dit, on a de nombreuses églises qui fleurissent un peu partout. Elle accueille la réforme grégorienne. Il y a des conciles qui se déroulent, qui se tiennent dans la ville. Mais vers 1130, on a le catharisme toulousain qui commence à se manifester. Alors rapidement, le catharisme, c'est quoi ? C'est une famille d'hérésie qui remet en cause la réforme grégorienne et qui prône le retour aux évangiles, aux premiers valeur de l'évangile et au père de l'église. Et ces cathares, dans le Languedoc, ils sont nommés les Albigeois, d'où le nom de la croisade des Albigeois. Donc ce catharisme toulousain, il va se développer aux alentours de 1130 à Toulouse, et il est combattu par le comte, donc Alphonse Jourdain, qui collabore avec notamment l'abbé de Clairvaux, et donc l'église va combattre cette hérésie. Bon, alors l'église a tendance à beaucoup exagéré la proportion d'hérétiques dans la ville. Si on regarde les registres d'inquisition, on compte une quarantaine de condamnés pour, à l'époque, donc à Toulouse, à cette époque-là, il y a 25 000 habitants. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Le problème, c'est que certains capitouls sont concernés. Et donc, ça pose problème. Donc les Morans, je vous ai parlé des Morans, il y a aussi la famille des Lanta, des Villeneuve ou des Rouet, qui sont des familles très importantes capitulaires. Donc l'Église avait augmenté son action contre l'hérésie, notamment avec l'arrivée de l'évêque Foulque, qui va être un évêque particulièrement énergique pour lutter contre l'hérésie. Donc on a des comtes de Toulouse qui sont plutôt contre les hérétiques, et on a l'arrivée de Raymond VI, donc le fils de Raymond V, qui lui est accusé de protéger les hérétiques, et c'est là que les choses vont se corser. Il va être excommunié par un légat du pape qui s'appelle Pierre de Castelnau, donc ça c'est en 1207, et un an après, Pierre de Castelnau est assassiné, sans doute par un proche donc de Raymond VI. C'est un prétexte pour le pape Innocent III d'engager une croisade en terre chrétienne hein, en fait, hein, contre Toulouse. Il va demander de l'aide au roi Philippe Auguste, qui va lui refuser de faire cette croisade, mais va dire « Mes vassaux, vous avez tout à fait le droit d'aller mener cette croisade avec Innocent III ». Et donc, c'est là l'arrivée d'un personnage très important, c'est Simon de Montfort, qui va lancer une expédition en 1209. Il va passer donc par le Rhône, puis par le Languedoc, et arriver à Toulouse. Donc à Toulouse, les capitouls refusent de livrer des hérétiques, hein, ils sont du côté des hérétiques, l'interdit est jeté sur la ville, et Simon de Montfort va tenter de prendre la ville une première fois en 1211. C'est un échec qui est gommé 2 ans plus tard par la bataille de Muret, qui est une bataille très importante, donc c'est septembre 1213, qui a des conséquences désastreuses pour Toulouse, puisque la milice toulousaine est complètement décimée. Donc la ville est prise par Simon de Montfort, Raymond VI est dépossédé de son titre de comte au profit de Simon de Montfort. Après 2 années d'errance, Raymond VI revient en cachette à Toulouse par le guet du Bazac. Il va pénétrer dans le bourg par surprise et les Toulousains vont se rallier à sa cause puisqu'ils n'aimaient pas Simon de Montfort. Simon de Montfort, c'était le français, c'était un peu l'envahisseur. Hein. Donc Raymond VI débarque dans la ville. Il y a une sorte de soulèvement qui arrive et les amis de Simon de Montfort se réfugient au château Narbonnais. C'est le cas aussi de l'évêque Foulque. Simon de Montfort était absent et il revient un mois plus tard. Il va tenter d'assiéger Toulouse une nouvelle fois. C'est le siège donc de 1217-1218. Donc il va essayer d'abord d'assiéger Toulouse, d'entourer Toulouse. C'est un échec. Il va attaquer Toulouse le 24 juin. Il va choisir un point faible de l'enceinte et il va être touché d'un pierrier à la tête. Il va mourir sur le coup. Alors la légende veut que ce soit des Toulousaines qui aient lancé cette pierre pour tuer Simon de Montfort. Donc c'est la fin de Simon de Montfort. Il va être remplacé par son fils, Amaury, donc de Montfort, qui va lui aussi tenter d'assiéger Toulouse, toujours en vain. Hein, les méridionaux vont résister. Donc ça, on est en 1219. Et Amaury va abandonner. Il va céder ses droits donc au roi de France, donc c'était à l'époque Louis VIII, qui va prendre les choses en main, donc il va amener une garnison à Carcassonne, et il va dire au sénéchal, bon ben maintenant vous en finissez avec Toulouse. Donc ça va être très simple, hein, qu'est-ce qui va se passer? Les troupes arrivent, elles encerclent Toulouse, on crame tout ce qu'il y a autour, hein, on détruit les récoltes, on affame Toulouse, ils se sont mis sur les collines à l'époque, hein, qui étaient des collines de Guillemery et Montaudran, et Toulouse est affamée, Toulouse est obligée de se rendre, et c'est la capitulation, et là c'est un événement très important, c'est la capitulation et le traité de Maupari, qui date donc de 1229. Donc c'est une cérémonie qui va se dérouler à Paris, devant Notre-Dame, dans laquelle Raymond VII va perdre tous ses territoires provençaux à l'exception de Toulouse. Sa fille, qui est sa seule héritière, Jeanne, va être confiée, qui est une enfant à l'époque à la cour du royaume de France. Elle sera mariée au frère du roi, donc Alphonse de Poitiers, qui deviendra par la suite comte de Toulouse.
Et donc Toulouse est rattachée à la couronne de France.
Voilà, c'est ça. Ça arrive un tout petit peu après à la mort d'Alphonse de Poitiers, mais aussi, donc, ce traité de... Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce traité de Montpellier, c'est également l'occasion de la création de l'Université de Toulouse. C'est à cette époque-là, pour lutter contre l'hérésie, qu'on va décider, en 1229, d'installer une université à Toulouse, donc une université plutôt de théologie. Donc on a des maîtres, on appelait ça des maîtres, de Paris qui vont venir. En plus, il y avait une grève à l'Université de Paris, donc les maîtres descendent. Et on va installer donc des cours de théologie à l'université.
C'est la deuxième en France à l'époque.
Oui, c'est ça,
après
tout
Paris,
à fait. Hein, ouais. Voilà, tout à fait. Bon, finalement, qui était destinée à être une université de théologie et qui va finir par être réputée pour son enseignement du droit, puisque la grève de Paris passée, les théologiens vont revenir, il y aura toujours un enseignement de la théologie autour des Jacobins, mais l'université sera plus réputée pour son enseignement du droit, et notamment du droit civil, hein, puisqu'on est dans un pays de tradition de droit romain, et donc on est quand même spécialisé sur ces questions-là.
Alors vous avez parlé des Jacobins, il y a un autre événement concomitant aussi à la croisade des Albigeois, à la création de l'université, c'est l'arrivée de Saint-Dominique à Toulouse, je crois que c'est 1215.
1215, c'est
voilà,
ça.
Voilà, 1215, donc. Et donc la création de l'ordre des frères prêcheurs, qui sera appelé par la suite l'ordre des Dominicains, et la construction du couvent des Jacobins, qui commence aussi à cette époque.
Tout à fait. Donc Dominique de Guzman, hein, il est d'abord avec des cisterciens, il va faire reconnaître sa communauté en 1215 auprès du pape, donc ce sont les frères prêcheurs ou les Dominicains, et ils vont s'installer d'abord près du château Narbonne. Là où vous, je ne sais pas si vous voyez, je ne me souviens plus du nom de cette maison, mais c'est la maison de l'Inquisition.
Maison Seyant.
Voilà, exactement, c'est ça. Donc ils vont s'installer là d'abord, puis vers la rue Jules Chaland. Ils vont partir de Toulouse en 1217 et revenir en 1229 autour des Jacobins, où là on va avoir effectivement une première construction qui va se faire, qui sera développée ensuite, on en parlera ensuite. Ces Dominicains, ils sont très importants puisque ce sont eux, après l'évêque, qui vont se charger du tribunal inquisitorial. Et on a une deuxième catégorie d'ordre mendiant qui intervient, qui apparaît aussi à cette époque. Ce sont les frères mineurs, donc ce sont les franciscains ou les cordeliers qui, eux, vont s'installer au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, dans le bourg, donc côté Saint-Sernin.
On arrive à la fin du XIIIe, début du XIVe. Alors il faut dire qu'à cette époque, la ville est vraiment prospère. Elle est prospère d'ailleurs grâce à quelles activités? Parce qu'en fait, c'est une capitale administrative, on ne peut pas dire que ce soit une capitale économique. Mais en revanche, il y a quand même du commerce, sans doute beaucoup grâce à la Garonne, mais pas seulement.
Oui, alors à cette époque-là, on est dans un moment de croissance générale, croissance démographique, croissance économique. Donc Toulouse grandit, se densifie. Hein. Faut s'imaginer qu'avant le XIIIe siècle, bon, on avait encore des espaces vides dans la ville. Donc là, on a l'intérieur de la ville qui se densifie, qui est entouré de murailles, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, et même qui va jusqu'à déborder au-delà des murailles, puisqu'on a des faubourgs qui vont se développer. Au départ, on en a quatre, et ensuite, on va avoir une ceinture continue, en fait, autour des murailles de la ville, où vont se développer des activités économiques, mais aussi où vont s'implanter de nombreux couvents et ordres mendiants. 14e siècle, Toulouse, c'est une des plus grandes villes du royaume de France. Bon, c'est très dur, hein, de d'estimer une population au Moyen-Âge, mais on imagine environ 35 000 habitants, ce qui en fait une des plus grandes villes après Paris, Rouen et Montpellier. Et pour donner un ordre de comparaison, hein, sur les villes qui sont un peu plus aux alentours, il faut compter 10 000 habitants à Albi et 3 000 habitants à Montauban. C'est sans commune mesure. Donc, effectivement, il y a un commerce qui se développe, notamment le commerce le plus prestigieux, c'est le commerce drapier, qui va effectivement se développer grâce à l'activité des moulins. On a également le change qui va se développer et des familles qui vont beaucoup s'enrichir grâce à cela et qui vont devenir ensuite, du coup, des familles capitulaires.
Alors, cette période de prospérité va malheureusement être interrompue par un triste événement, et c'est pas seulement à Toulouse à l'époque, c'est la peste noire. On est au milieu du XIVe siècle, 1348. Quelles vont être les conséquences pour la ville? Alors, il y a une saignée démographique sans doute énorme.
Tout à fait. Donc la peste qui arrive en Europe en 1347 arrive pour la première fois à Toulouse en avril 1348. Son apparition, elle est favorisée, hein, par l'enchaînement de mauvaises récoltes qui vont forcer les capitouls à importer des céréales de Sicile quand c'est possible. Et donc on a quelques indicateurs, hein, qui montrent que le fléau a frappé la ville de plein fouet. On a des moulins qui sont arrêtés, l'impôt qui était prévu pour la construction des murailles aussi qui est interrompu. Et donc cette peste, hein, elle va revenir à plusieurs reprises. On compte par exemple pour le 15e XIXe siècle, environ 5 épidémies, auxquelles s'ajoutent des disettes et des famines. Et donc, en un demi-siècle, pour donner une idée de cette saignée démographique, Toulouse a perdu plus de 40% de sa population. Donc, je vous avais dit 35 000 habitants. En 1398, on est à 24 000 habitants. En 1405, 22 500.
Guerre de 100 ans, il s'est passé beaucoup de choses autour de Toulouse ou on n'est pas trop concerné?
Alors autour de Toulouse, oui. À Toulouse, non. Mais le fait qu'il se passe beaucoup de choses autour de Toulouse, hein, notamment la chevauchée du prince noir qui a semé la terreur, fait qu'on s'inquiète un peu à Toulouse, c'est normal. Donc les Capitouls vont entreprendre des travaux défensifs au cas où le prince noir arrive à Toulouse. Donc on va avoir beaucoup de travaux de réfection des murailles pour se protéger. Et donc les Toulousains vont être frappés très 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 régulièrement durant toute la période d'impôt pour les consolider.
Reconstruire les remparts ou les consolider.
C'est ça. Mais c'est un chantier interminable qui a duré tout le long du Moyen-Âge et qui s'est perpétré à l'époque moderne. C'était une construction sans fin.
Alors bon, fin du 14e, début 15e, là, on va entrer dans une nouvelle période prospère. On peut même parler d'âge d'or et là, on va parler d'âge d'or bleu puisque c'est l'industrie du pastel qui va considérablement enrichir la ville.
Tout à fait, oui. Donc là, on est vraiment à la toute fin de la période médiévale. Le commerce du pastel, il existe à la période médiévale. Il émerge au XIVe siècle. Il est monopolisé par des Béarnais jusqu'au milieu du XVe siècle. Et peu à peu, Toulouse va réussir à prendre le monopole de la commercialisation du pastel régional. Et donc, on a des familles qui vont s'enrichir là-dessus, notamment les Lancefoques. Et ce commerce, il va permettre à Toulouse de prospérer. Mais là, c'est plutôt donc l'affaire de l'époque moderne.
Alors, il y a un autre événement qui va encore malheureusement un peu assombrir cette période du XVe siècle. C'est un grand incendie en 1463 qui va ravager une grande partie de la ville.
Alors, tout à fait. Donc, il y a eu plusieurs incendies. Donc, on a parlé de la peste, on a parlé des famines et des disettes. Mais il y a aussi, Toulouse est frappée par de nombreux incendies et de nombreuses crues. Donc, l'incendie le plus important, c'est l'incendie de 1463. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu qui démarre de la rue Maltache chez un boulanger. Et malheureusement, il y a beaucoup de vent ce jour-là. Et on a à peu près deux tiers de la cité, non pas de la ville en entier, mais de la cité qui vont être ravagées. C'est 1200 maisons qui vont être brûlées en quelques jours. Pourquoi? Parce que les maisons à cette époque, elles sont construites en bois et en torchis. Donc c'est du matériau qui brûle très rapidement.
Oui.
Voilà. Donc Toulouse va se remettre de cet incendie. On va voir, justement, c'est intéressant dans les archives, puisque à la suite de ces événements-là, on a des règlements sur l'entretien des cheminées dans les maisons pour faire attention l'utilisation de certaines briques pour éviter la propagation d'un incendie. Mais néanmoins, l'urbanisme n'a pas énormément changé à la suite de cet incendie, alors qu'il y a quand même de nombreuses destructions. Et après, on a eu aussi donc des crues, deux particulièrement fameuses, donc en 1400, aux alentours de 1430, qui ont emporté les deux derniers ponts de Toulouse. Donc en fait, de tous les ponts dont je vous ai parlé, à la fin du Moyen-Âge, il n'y a que le pont de la Dorade qui restait, qui est emporté par la crue de 1430. Et il y a également tout le faubourg Saint-Cyprien, qui était maintenant intégré à la ville, qui a été complètement noyé et ravagé par ces crues.
Un autre événement dont on peut peut-être citer dans ce 15e siècle, c'est l'arrivée d'imprimerie à Toulouse. 1453, Gutenberg crée l'imprimerie. Elle arrive assez rapidement en France et elle arrive à Toulouse en 1476. Alors ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y ait une université, sans doute.
Oui, alors ça s'explique par le fait qu'il y ait une université. Alors ce qui s'explique aussi, c'est qu'on avait de nombreux parcheminiers, donc qui étaient dans la rue Pargaminière à l'époque, puisque l'université était demandeuse de manuscrits, de documents, et donc l'imprimerie va se développer exactement pour les mêmes raisons, mais aussi parce qu'à Toulouse, on a un parlement qui va apparaître en 1420, mais s'installer définitivement à Toulouse en 1443, et qui est très demandeur de cette imprimerie toulousaine.
Nous allons terminer là-dessus, sur l'arrivée de l'imprimerie à Toulouse. C'est la fin de cette émission, la deuxième consacrée à l'histoire de la ville rose. Merci beaucoup à Agathe Roby d'en avoir été la brillante invitée, de nous avoir promené à travers les siècles du Moyen-Âge à Toulouse. La ville y prend déjà en partie la forme de ce qu'elle deviendra plus tard. Et puis c'est aussi à cette période que sont construits plusieurs des édifices, religieux entre autres, que nous pouvons encore admirer et visiter aujourd'hui. Nous terminons à la fin du XVe siècle, au début d'un nouvel âge d'or pour la ville rose. Nous reprendrons donc au XVIe siècle avec l'invitation du prochain numéro, ne le manquez pas, ça va être encore passionnant. Je rappelle qu'est paru aux éditions Privas le très beau livre Histoire de Toulouse et de la Métropole, auquel a collaboré Agathe Roby. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.